écoutez KTO Radio, il est 4 heures.
Lecture du livre de Job. Job prit la parole et dit « Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée. Il fait des journées de manœuvre, comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, comme le manœuvre qui attend sa paye. Depuis des mois, je n'ai en partage que le néant. Je ne compte que des nuits de souffrance. À peine couché, je me dis « Quand pourrais-je me lever ?» Le soir n'en finit pas. Je suis envahi de cauchemars jusqu'à l'aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'achèvent, faute de fil. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle. Mes yeux ne verront plus le bonheur. Nous n'avons lu ici malheureusement que quelques lignes du livre de Job qui compte 42 chapitres. Mais nous comprenons déjà qu'il affronte la question la plus terrible de nos vies. Celle de la souffrance. Et beaucoup d'entre nous se reconnaîtront dans les plaintes de Job. Car l'une des grandes qualités de ce livre est la vérité, l'actualité des questions qu'il ose poser. Vous connaissez l'histoire. Il était une fois un homme du nom de Job, un homme intègre et droit, qui craignait Dieu et s'écartait du mal. Il était heureux, il était riche. Tout allait bien pour lui, dirait-on aujourd'hui. Il avait une femme et de nombreux enfants, et son seul souci à leur égard était de les voir rester dans le droit chemin. Bref, en tout point, il était irréprochable. Et puis soudain, tous les malheurs du monde s'abattent sur lui. En moins de temps qu'il n'en faut pour le raconter, il perd tout. Ses richesses, ses troupeaux, et bien pire, tous ses enfants. Il lui reste encore la santé, mais pas pour longtemps. Une deuxième vague de malheurs s'abat sur lui. Il est atteint d'une maladie de peau, du genre de la lèpre. Il devient affreux à voir et sa maladie l'oblige à quitter la ville. Il doit quitter sa maison magnifique pour s'installer sur la décharge publique. Et dans tout cela, il est horriblement seul. Sa propre femme ne le comprend pas. Tout au long du livre, Job ne sait que redire sa souffrance physique, psychologique, morale. L'angoisse devant la mort prématurée et pourtant l'horreur de vivre, l'incompréhension des amis, et pire que tout, le silence de Dieu. Il égrène toute cette douleur, dans des termes admirables d'ailleurs, et répète sans cesse son incompréhension devant l'injustice qu'elle représente à ses yeux. Car à l'époque où ce livre a été écrit, tout le monde en Israël pensait que la justice de Dieu consiste à récompenser scrupuleusement les bons et à punir les méchants. C'est ce que l'on appelle la logique de rétribution. Mais voilà, justement, Job a toujours mené une vie droite. Il ne mérite nullement d'être puni. Ses amis ne l'entendent pas de cette oreille. Ils pensent comme tout le monde, et donc lui répètent à longueur de journée le même discours. En gros, cela tourne autour de deux argumentations. Premier raisonnement, puisque la souffrance est toujours une punition. Si tu souffres, c'est que tu as péché. Fais ton examen de conscience. À quoi Job répond « Non, je vous assure, je n'ai pas péché. » Et les amis de surenchérir, « Tu as donc doublement tort. Non seulement tu as péché, la preuve c'est que tu souffres, mais en plus tu as l'audace de le nier. » Deuxième raisonnement, la souffrance est une école de vertu. Quelque chose comme « Qui aime bien, châtie bien. » Tout au long du livre, Job refuse ces explications trop faciles. Il voudrait bien que cesse tout ce verbiage inutile qu'il enfonce encore dans la solitude. Certaines de ces phrases sont d'ailleurs une leçon pour tous les visiteurs de malades et de souffrants de toutes sortes. Je cite « Écoutez-moi, écoutez-moi, c'est ainsi que vous me consolerez. Autrement dit, vous feriez mieux de vous taire et de m'écouter. » C'est la seule manière de me consoler. Lui, Job, ne sait que dire, clamer, hurler sa souffrance et sa révolte. mais sans jamais cesser d'affirmer « Dieu ne peut être que juste ». Et lui-même va faire un long chemin. Au début du livre, il répète sans arrêt « Je vous dis que je n'ai pas péché, donc ce qui m'arrive est injuste ». Sans s'apercevoir qu'en disant cela, il est bien dans la même logique que ses amis. Si on souffre, c'est qu'on a péché. Puis, peu à peu, la voix de l'expérience parle. Il a vu combien de fois des bandits vivre heureux, impunis, et mourir sans souffrir, pendant que des gens honnêtes, des innocents, ont des vies d'enfer et de longues agonies. Non, il n'y a pas de justice, comme on dit. Et ses amis ont tort de prétendre que les bons sont toujours récompensés et les méchants toujours punis. Alors, à la fin, il comprend qu'il s'est lui-même trompé sur la justice de Dieu. Alors, à bout d'arguments, il finira par faire acte d'humilité. Il reconnaît que Dieu seul sait les mystères de la vie. Alors, il est prêt pour la découverte. Et Dieu l'attendait là. C'est Dieu désormais qui prend la parole. Il ne fait pas de reproche à Job. Il dit aux amis de Job que toutes leurs explications ne valent rien. Il va jusqu'à dire, je cite, « Seul Job a bien parlé de moi ». Ce qui veut dire qu'on a le droit de crier, de se révolter. Puis, il invite Job à contempler la création et reconnaître humblement son ignorance. Comme un père reprend gentiment mais fermement son fils, Dieu fait comprendre à Job que ses pensées ne sont pas nos pensées et que si sa justice nous échappe, cela ne nous autorise pas pour autant à la contester. Et Job, qui est un homme intègre et droit, on nous l'a dit dès le début, comprend la leçon. Il avoue « J'ai abordé sans le savoir des mystères qui me confondent ». En définitive, le livre de Job ne donnera pas d'explication au problème de la souffrance, mais il nous indique le chemin. Ne pas retenir nos cris, mais garder confiance et tenir fort la main de Dieu, puisqu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Psaume 146. Alléluia! Il est bon de fêter notre Dieu. Il est beau de chanter sa louange. Il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles. Il donne à chacune un nom. Il est grand. Il est fort, notre maître. Nul n'a mesuré son intelligence. Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce, jouez pour notre Dieu sur la cithare. Vous avez entendu, ce psaume commence par le mot Alléluia, qui a tellement d'importance dans la tradition juive. C'est l'acclamation qu'on adresse au Dieu qui a libéré son peuple. Voici comment les rabbins l'expliquent. Dieu nous a fait passer de la servitude à la liberté, de la tristesse à la joie, du deuil au jour de fête, des ténèbres à la brillante lumière, de la servitude à la rédemption. C'est pourquoi chantons devant lui l'Alléluia. C'est dans un commentaire de la Pâque. On comprend mieux du coup la phrase « Il est bon de fêter notre Dieu, il est beau de chanter sa louange ». Et on voit bien aussi pourquoi ce psaume nous est proposé ce dimanche, en écho à la première lecture tirée du livre de Job. Le verset 3 affirme « Dieu guérit les cœurs brisés, il soigne leurs blessures ». Cœurs brisés, Job en était un, affronté à la plus cruelle énigme de notre vie, la souffrance. Au sein même de sa douleur, ce qui nous était donné en exemple chez Job, c'était sa ténacité, à vouloir à tout prix entrer en dialogue avec Dieu. Et ce qu'il découvre en fin de compte, ce n'est pas un coup de baguette magique qui le délivrerait de toutes ses souffrances, mais c'est la présence de Dieu à ses côtés, quoi qu'il arrive. Quand on dit « le Seigneur guérit les cœurs brisés, il soigne leurs blessures », il s'agit bien des cœurs, pas des corps. Cette présence de Dieu auprès des plus petits et de ceux qui souffrent est une des grandes découvertes de l'Ancien Testament. Désormais, l'homme n'est plus seul face aux difficultés et pour certains, aux cruautés. de l'existence. Le livre de l'Ecclésiastique, vous connaissez, va jusqu'à dire « Les larmes de la veuve coulent sur les joues de Dieu ». C'est dans le Siracide, donc Ben Sirach, chapitre 35, verset 18. Il est probable que les cœurs brisés dont il est question ici, ce sont les Juifs de Jérusalem déportés à Babylone par Nabuchodonosor. L'Alléluia le laissait entendre. Et puis dès le début du psaume, le verset 2, que nous ne lisons pas ce dimanche, parle 2 justement, je vous le cite, « Le Seigneur rebâtit Jérusalem, il rassemble les déportés d'Israël ». Je vous donne la première strophe dans son ensemble. Alléluia, il est bon de fêter notre Dieu, il est beau de chanter sa louange. Le Seigneur rebâtit Jérusalem, il rassemble les déportés d'Israël, il guérit les cœurs brisés, il soigne leurs blessures. Cet Alléluia, qui est le chant de la libération, prend tout son sens avec le rappel de la fin de l'exil à Babylone. Surtout si on se souvient que ce retour d'exil est vécu non seulement comme une libération politique, mais peut-être plus encore comme une libération spirituelle. Pendant l'exil, le peuple d'Israël a eu tout loisir de relire son histoire et de faire son examen de conscience. Les prophètes avaient prédit le désastre si on ne se convertissait pas. Et le désastre est arrivé, sous les traits de Nabuchodonosor. Le retour au pays, la reconstruction de Jérusalem, ouvre un nouvel avenir. Dieu a pardonné. Désormais, de retour sur la Terre Sainte, on va de nouveau essayer d'y vivre saintement. Et ne croyez pas qu'on change de sujet avec les versets suivants, je vous les rappelle. Il compte le nombre des étoiles, il donne à chacune un nom. Bien sûr, c'est une allusion à la création. Mais il faut savoir que c'est toujours dans les périodes de grande détresse que les auteurs bibliques écrivent les plus beaux textes sur la création. Manière de dire que le Créateur qui a tout fait surgir à partir de rien saura nous faire ressurgir nous-mêmes, quel que soit l'abîme dans lequel nous sommes tombés. D'autre part, on sait bien que le premier article de foi pour Israël est « Je crois en Dieu libérateur ». Et le deuxième article seulement, « Je crois en Dieu créateur ». La foi au Dieu créateur en Israël est lue à la lumière de l'expérience de la libération d'Égypte et de toutes les libérations successives. Le Dieu créateur est admiré, loué pour sa toute-puissance, mais surtout pour son projet d'amour sur l'humanité. Ce projet de Dieu sur l'homme est un rêve de grandeur. Le Créateur qui a modelé l'homme à partir de la poussière du sol est aussi celui qui inlassablement le relève chaque fois que c'est nécessaire pour l'attirer à lui. Le Seigneur relève les humbles. Les humbles, les petits, nous les rencontrons souvent dans la Bible. Ce sont ceux qui n'ont pas de prétention devant Dieu, ni de mérite à faire valoir. Les impies, au contraire, on pourrait traduire les prétentieux, ne sont pas prêts à accueillir les dons de Dieu. Dans cette phrase, le Seigneur relève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Vous avez reconnu le cantique d'Anne, la maman de Samuel, aussi le Magnificat, sans compter quelques psaumes. Jésus aussi avait une prédilection pour les tout-petits, je vous rappelle son hymne de jubilation. « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout-petits. » C'est dans Matthieu chapitre 11, verset 25. Et c'est pour cela que le chant de reconnaissance jaillit du cœur des croyants. Il est bon de fêter notre Dieu. Il est beau de chanter sa louange. Cela est bon de deux manières. D'abord parce que c'est justice. Et aussi parce que c'est notre bonheur. L'homme est ainsi fait qu'il ne trouve son bonheur que dans une relation filiale avec Dieu. Il faudrait entendre saint Augustin. Tu nous as fait pour toi, Seigneur. Et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, annoncer l'évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté, c'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'évangile. Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense, mais je ne le fais pas de moi-même, c'est une mission qui m'est confiée. Alors quel est mon mérite? c'est d'annoncer l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous, afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j'ai été faible, pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour y avoir part, moi aussi. Paul a toujours travaillé de ses mains pour rester un missionnaire bénévole. Mais à Corinthe, certains ont trouvé ce désintéressement suspect. Il présente donc ici les raisons profondes de sa conduite. S'il se montre à ce point désintéressé, c'est pour que l'on sache bien qu'il ne roule pas pour lui, comme on dit. Il ne considère pas l'annonce de la bonne nouvelle comme l'exercice d'un métier dont il pourrait tirer quelque avantage que ce soit, mais l'accomplissement de la mission qui lui est confiée. Il est en service commandé. C'est cela qui le rend libre. J'annonce l'Évangile, c'est une nécessité qui s'impose à moi. Paul n'a pas choisi d'annoncer l'Évangile, on le sait bien. Ce n'était pas prévu au programme, pourrait-on dire. Il était un juif fervent, cultivé, un pharisien, tellement fervent qu'il a commencé par persécuter la toute nouvelle secte des chrétiens. Et puis, sa conversion imprévisible a tout changé. Désormais, il a mis son tempérament passionné au service de l'Évangile. Pour lui, la prédication est une fonction qui lui a été imposée lors de sa vocation, comme si, à ses yeux, on ne pouvait pas être chrétien sans être apôtre. Il sait bien que s'il a été appelé par Dieu, c'est pour le service des autres. Un prophète, par hypothèse, est toujours un homme pour les autres. Dans l'évangile de Marc, que nous lisons dans cette même liturgie, Jésus dit que c'est pour annoncer la bonne nouvelle qu'il est venu. Cette conscience de sa responsabilité fait dire à Paul une phrase très forte qui nous surprend peut-être. « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile ». Cela ne veut pas dire qu'il a peur d'une sanction quelconque ou qu'il ressent une menace extérieure pour le cas où il ne remplirait pas sa mission. Mais c'est quelque chose comme « si je n'annonçais pas l'Évangile, mais je serais le plus malheureux des hommes ». Cette passion nouvelle pour l'Évangile est devenue pour lui une seconde nature. Parce que cette découverte qu'il a faite, il brûle de la partager. Elle est là, sa joie et sa récompense. Simplement savoir qu'il a accompli sa mission. Paul n'est pas un prédicateur itinérant qui vend ses talents d'orateur en faisant des conférences payantes ici ou là. Il est en service commandé. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Je ne le fais pas de moi-même. Je m'acquitte de la charge que Dieu m'a confiée. Mais pourtant, ma récompense est grande, car c'est un grand honneur et une grande joie d'annoncer l'Évangile. Traduisez, ne recevoir aucun salaire, voilà mon salaire. Cet apparent paradoxe, c'est la merveilleuse expérience quotidienne de tous les serviteurs de l'Évangile. Car la gratuité est le seul régime qui s'accorde avec le discours sur la gratuité de l'amour de Dieu. Bien sûr, il faut vivre et assurer sa subsistance. Mais Paul nous dit très fort ici que la prédication de l'Évangile est une charge, une mission, une vocation et non un métier. En accomplissant de tout cœur la tâche qui lui est imposée, l'apôtre est gratifié de la joie de donner. Et en cela, il est à l'image de celui qui l'annonce. Cette prédication n'est pas seulement parole, mais aussi tout un comportement. Je cite Paul, « J'ai partagé la faiblesse des faibles » pour gagner les faibles. De quelle sorte de faiblesse parle-t-il ? Je m'explique. Les membres de la communauté de Corinthe n'ont pas tous eu le même parcours, comme on dit. Certains sont d'anciens juifs devenus chrétiens, comme Paul. Mais les autres sont d'anciens non-juifs. Ils n'étaient pourtant pas des païens à proprement parler. Ils avaient une religion, des dieux, des rites. Leur baptême et leur entrée dans la communauté chrétienne leur ont imposé des changements d'habitude parfois radicaux. Par exemple, dans leur ancienne religion, ils offraient des sacrifices à leurs idoles et ils mangeaient ensuite la viande des animaux sacrifiés dans une sorte de repas sacré. En adhérant à la foi chrétienne, ils ont évidemment abandonné ces pratiques. On sait que l'entrée en catéchuménat imposait des exigences très strictes. Mais il peut leur arriver d'être invité par des proches ou des amis païens. Quand on est un chrétien sûr de sa foi, Paul dit un fort. On n'a aucun cas de conscience à accepter ce genre d'invitation, puisque les idoles n'existent pas. On peut bien leur immoler tous les animaux que l'on voudra. Ces sacrifices n'ont aucun sens. Et donc ces repas ne sont pas un blasphème à l'égard du Dieu des chrétiens. Un chrétien sûr de sa foi est assez libre pour cela. Et il préfère ne pas peiner sa famille ou ses amis en refusant une invitation. Mais il y a des chrétiens moins sûrs d'eux, ceux que Paul appelle les faibles. Ils savent bien eux aussi que les idoles ne sont rien. Et ce genre de problème les trouble encore. Il ne faudrait ni les choquer, ni les inciter à retomber dans leurs anciennes pratiques. Les plus forts devront donc toujours veiller à respecter les plus faibles. C'est le béaba d'une véritable vie fraternelle. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent, avec Jacques et Jean, dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube, il sortit et se rendit dans un endroit désert. Et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche !» Jésus leur dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. On dirait presque un reportage. Marc nous dit les lieux et les moments. Mais comme justement les objectifs des évangélistes ne sont jamais d'ordre journalistique, il faut croire que toutes ces précisions ont un sens théologique. À nous de savoir lire entre les lignes. Donc ceci se passe en Galilée, à Capharnaüm. Un jour de sabbat, puis le soir et le lendemain. Comme chacun sait, le jour pour les Juifs ne se compte pas de minuit à minuit, mais du coucher du soleil au coucher du soleil. Le sabbat commence le vendredi soir au coucher du soleil et finit le samedi soir, à l'apparition des premières étoiles. On sait aussi que le sabbat est un jour réservé à la prière et à l'étude de la Torah, à la synagogue ou chez soi. C'est bien pour cela que les habitants de Capharnaüm amènent leurs malades à Jésus seulement le soir du sabbat. En précisant que le soleil est couché, Marc veut peut-être également attirer notre attention. Puisque le soleil est couché, nous sommes déjà dimanche, le premier jour de la semaine, et on sait le sens que le dimanche a pris pour les premiers chrétiens. Il symbolise le début de la création nouvelle. Le reste de la journée du sabbat, Jésus n'a fait qu'une chose, aller à la synagogue de la ville, et il est rentré aussitôt après à la maison. Si Marc le précise, c'est sans doute pour nous rappeler que Jésus est un juif fidèle à la loi. Le matin, à la synagogue, il a délivré un homme possédé d'un esprit impur, selon l'expression de Marc. Et la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre que Jésus commande aux esprits impurs. Pas étonnant que le soir, après la fin du sabbat, on lui amène tous les malades et les possédés. En filigrane, Marc nous dit déjà « Voici le Messie, celui qui annonce et accomplit le royaume ». Curieusement, les démons connaissent l'identité de Jésus. Et Jésus leur interdit de parler, je vous rappelle le texte. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Mais pourquoi ce silence imposé, alors que Jésus n'est pas venu pour se cacher? Probablement parce que les habitants de Capharnaüm ne sont pas encore prêts pour cette révélation. il leur reste encore tout un chemin à parcourir avant de découvrir le vrai visage du Christ. Pour l'instant, les malades sont attirés par Jésus, mais sont-ils prêts pour la foi? C'est là l'ambiguïté des miracles, le risque de repartir guéri sans avoir rencontré Dieu. Et quand Simon voudrait retenir Jésus en lui disant « Tout le monde te cherche », Jésus le ramène à l'essentiel, la prédication du royaume. Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. Or, si nous relisons le début de l'évangile de Marc, pour Jésus, annoncer l'évangile, cela consistait à dire « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche ». C'est au chapitre 1, verset 15 de Marc. Les miracles, justement, sont le signe que le règne de Dieu est déjà là. Le risque serait de n'y voir que le prodige. Le lendemain, bien avant l'aube, Jésus se leva. Il sortit et alla dans un endroit désert, et là il priait. Jésus va au désert pour rencontrer Dieu. Et aussitôt revenu près de ses disciples, il leur dit « Allons ailleurs ». Est-ce la prière qui le pousse à partir ailleurs ? Loin d'affaiblir son ardeur missionnaire, il semble bien que cette retraite dans le silence le relance au contraire. C'est pour cela que je suis sorti. On ne peut pas ne pas penser à l'insistance de Paul dans la lettre aux Corinthiens, que nous lisons ce même dimanche en deuxième lecture. Jésus et Paul ont cette même passion de l'annonce de la bonne nouvelle. On dirait qu'il y a urgence. Dernière remarque, les guérisons opérées par Jésus devraient, semble-t-il, remettre en cause certains de nos discours sur la souffrance. Si Jésus guérit les malades, c'est que la maladie est un mal. S'il guérit en même temps qu'il annonce le royaume, c'est parce que le mal contrecarre le projet de Dieu et donc il faut nous en débarrasser. Dans la première lecture, nous avons entendu Job crier sa souffrance. Et à la fin du livre de Job, Dieu lui donne raison d'avoir osé crier. La souffrance en soi est toujours un mal. Il faut oser le dire. Et il est vrai que certains, avec la grâce de Dieu, trouvent dans la souffrance un chemin qui les fait grandir. Mais la souffrance en elle-même reste un mal. Et tous nos efforts pour lutter contre les souffrances des hommes vont dans le sens du projet de Dieu. La prédication de l'Évangile n'est pas que parole. Elle est en même temps et inséparablement lutte contre ce qui fait souffrir les hommes.
Yeah.
Vous écoutez KTO Radio partout en France sur le DAB+ et dans le monde entier sur Internet.
Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Eh bien, ce soir, je suis heureux de vous présenter Vince le Mariachi. Bonsoir Vince.
Bonsoir.
Alors, on a déjà eu l'occasion de vous avoir à l'antenne, hein, je pense, dans quelques émissions. Enfin, votre visage n'est pas inconnu.
J'ai eu cet honneur.
Voilà, et puis quand on vous voit, on pense un peu au guetteur, on
tout
pense à Grégory Turpin. Enfin, c'est toute une famille un peu de musiciens chrétiens.
Ouais.
Là, vous venez nous présenter le livre « Le nom du Père, récit métissé » aux éditions Première Partie. C'est votre histoire, tout simplement. C'est le début de votre histoire, parce que vous êtes encore jeune.
Oui, tout a été sourcé, tout est authentique, tout a été vécu.
Donc c'est un témoignage, on va dire que la question du père est un peu centrale, la question du pardon, la question des racines, la question de la foi. On va en parler dans un instant, mais juste avant, comme tout le monde ici, je vous invite non pas à nous lire un extrait de texte, mais à nous interpréter une musique, ce que vous avez fait il y a quelques minutes. On a enregistré, on écoute.
Avec plaisir.
Je sens vibrer ton nom à l'encre des lignes, Yeshua, signe de guérison. Même si je n'en suis pas digne, Yeshua, ton nom durcit mes lèvres, loin du goût du sable, Yeshua, serais-je à toi semblable? Je sais que c'est toi. Soupir en moi, oui, tu es mon appui et ma loi. Yeshua, Yeshua, j'ai vu tes cicatrices. Vu le repère, Yeshua, le mât de misère, disparu aux abysses, Yeshua, le poids noyé aux douleurs du supplice, Yeshua, aux sueurs du Fils. Je sais que c'est toi et mon Christ et mon soupir en moi. Oui, tu es mon appui et ma loi. Je sais que c'est toi et mon Christ et mon roi. Dans les déserts, au rocher nu, proclamez ce nom. Dans les déserts, au rocher nu. Dans les déserts, au rocher nu, proclamez ce nom. Dans les déserts, au rocher nu. Yeshua, 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 Yeshua.
Alors quand on lit ce livre, donc le nom du père, récit métissé, donc métissé forcément, on s'interroge, ah bon, métissé. C'est vrai qu'on vous voit, on voit des traits qui ressemblent un peu à des traits du Sud, peut-être d'Amérique du Sud. Et en lisant, on voit que vous avez la moitié de votre sang qui est du Mexique, c'est bien cela ?
C'est ça, c'est ça. Mon père était mexicain, puis ma mère française de Versailles. Donc voilà, une catho, comme on dit, on est des gros cathos, on est des cathos de Versailles.
D'accord.
Voilà, des vrais cathos
Et alors, qu'est-ce qui s'est passé avec votre père ?
Eh bien, mon père, apparemment, le Mexique est un pays tellement merveilleux qu'il ne pouvait pas vivre loin. Et il est reparti là-bas, il nous a abandonnés, ma mère et moi, en nous laissant uniquement son nom de famille. Donc, un peu encombrant, dans l'espace versaillais. Et ma maman a pris ce nom, le nom de son mari qu'il nous avait abandonné, pour s'appeler comme son fils. Voilà, donc, on s'est appelés voilà, les Rodríguez Patiño, dans une ville aussi classique que Versailles.
Comment on se construit quand on n'a pas de papa présent ?
Alors surtout dans cette ville, j'aime bien dire qu'il n'y a pas que les baguettes qui sont tradies à Versailles. C'est une ville que j'adore, mais qu'il faut un peu adopter. Et déjà là, ça pose problème. Une famille monoparentale à Versailles. Et puis surtout, la fatigue. Je vois ma mère extrêmement épuisée de m'élever seule. C'est vrai que je la voyais se débattre avec son travail. Elle recevait une aide alimentaire parce que on était dans des HLM et que évidemment mon père étant parti loin, il y avait aucune possibilité de pension ni rien. Donc elle était vraiment abandonnée. Heureusement, elle avait de la famille. Mon grand-père qui était aussi très croyant, très chrétien.
Qui a l'air d'être un homme très bon.
Ah, exceptionnel. Exceptionnel. Mes grands-parents étaient exceptionnels. Ma famille, toute ma famille, parrain, marraine, et puis des familles qui étaient aussi là pour aider ma mère qui travaillait surtout le soir. Elle était professeure de musique, donc c'était les horaires extrascolaires, comme on dit. Et pour un petit, il faut qu'il soit accueilli dans des familles, et parfois même la nuit. Voilà, j'ai eu cette chance. J'ai bénéficié de l'accueil. Versailles est capable de vous accueillir et de vous soutenir.
Vous dites à un moment quand même que vous auriez pu mal tourner.
Oui, tout à fait. C'est ce que j'ai réalisé parce que on vivait dans un HLM dans les bas-fonds duquel se passaient des commerces complètement illicites. Et j'aurais pu, cellule familiale compliquée, teint de peau un peu plus foncé que la moyenne. Oui. J'aurais pu vraiment tomber dans la criminalité, je pense. Et en fait, j'en ai été sauvé par, je pense, toutes ces attaches, toutes ces amitiés qui m'ont retenu et qui ont fait que je me suis jamais rebellé. Au contraire, je me suis peut-être révolté au fond de moi, mais je ne suis jamais allé jusqu'à l'exprimer de façon violente. Au contraire, je sais ce que je dois aux amis, je sais ce que je dois au lieu qui m'a accueilli. Et surtout mon école, Blanche-Castille, au Chesnay, qui était un endroit où je pense j'ai pu m'épanouir, à la fois justement dans la foi, puisqu'il y avait une heure de catéchèse qui était prévue, et puis et la messe tous les jours. Et puis des professeurs qui se donnent vraiment pour que... En fait, les professeurs sont des vendeurs. Ils vous vendent vous à vous. Et je sentais que c'était ça qu'ils étaient en train de faire. Ils étaient en train de me donner la possibilité d'être moi-même. Donc je l'ai prise.
Votre mère vous emmenait à la messe assez souvent, quand vous étiez plus jeune, non ?
Ouais, elle prenait le temps de m'emmener le matin à la messe qui dure une demi-heure, qui est la meilleure messe du monde. On passe direct à l'essentiel, les textes, la parole, l'Eucharistie, la paix. C'était ce que je dis dans le livre, c'est mon rendez-vous avec la grâce. C'est le temps et l'éternité qui se réconcilient avec le sacrement de l'Eucharistie et les prêtres.
Et alors l'adolescence, quand elle est arrivée, vous avez résisté, vous avez réussi à pas tout envoyer voltiger et envoyer un au-dessus de chez votre père.
C'est là où j'ai réalisé le manque, l'absence, ce que ça avait fait en moi. Donc j'ai des images dans le livre pour l'exprimer et je pense que c'est assez parlant. Il me manque une pièce, il manque une pièce au puzzle. On commence toujours quand on fait un puzzle par les bords, et au centre, il manquait une pièce. C'était cette absence. Ou alors le texte, le lipogramme comme Georges Perec, il manque une lettre. Et alors tout est compliqué quand on doit écrire un texte sans la lettre E, par exemple, comme l'a fait Georges Perec. Et Lamartine disait... un seul être vous manque et tout est dépeuplé, une seule lettre vous manque et tout devient compliqué. Et effectivement, quand l'absence devient... On réalise que, en fait, l'absence est évidente et qu'il nous manque. On manque de repères, on s'est peut-être pas justement rebellé contre le père. Il nous a manqué beaucoup d'éducation, une partie importante de notre identité, de notre origine.
De personnes à qui s'affronter, avec qui dialoguer, avec un ressenti d'homme à homme aussi. Enfin, c'est
exactement. Pour savoir qui on est. En fait, c'est assez beau parce que Moïse, c'est une des questions qu'il pose à Dieu. Dieu l'envoie en mission et Moïse pose la question, mais qui suis-je ? Justement, la même question que Jésus à Pierre, mais qui suis-je pour aller ? Qui suis-je pour aller voir les Égyptiens ? Comme si pour aller... Il fallait savoir qui on est. Et moi, impossible de, d'aller.
Ben oui.
Je ne sais pas qui je suis.
Et l'image du père, du ciel, elle a été un petit peu abîmée quand même
C'est-à-dire que, en fait, déjà, je ne peux pas prononcer le mot père. Je me rends compte que c'est un mot qui... Voilà, pèse assez lourd. Ma mère m'a jamais parlé du Père Noël en me disant, écoute, hein, on n'a pas de sous, donc c'est moi qui t'offre les cadeaux hein, à Noël. Donc merci maman, merci Marie-Brigitte pour tous ces cadeaux, tout ce que tu m'as apporté. Et puis, heureusement, j'ai le grand-père. On m'a posé cette question un jour. C'est vrai que grand-père, pour moi, c'est pas les deux la même chose. Mmh. Et puis, c'est un vieux monsieur qui est dans son jardin, qui est un intellectuel, et puis qui est capable de cuisiner et de faire plaisir à ses petits-enfants. Il y a quelque chose de bon, de beau chez cet homme, et je vois pas en fait là. Par contre, quand il me parle de Dieu le Père, effectivement, j'y crois, j'y récite le Notre Père, mais je réalise pas que je suis fils. Moi, c'est pas possible, j'ai été abandonné. Donc, il y a quelque chose chez les enfants qui ont été abandonnés ou quittés par leurs parents. Que ce soit le deuil, ou il y a un manque. Et là, en fait, c'était, bah, j'ai été abandonné, je ne vaux pas grand-chose.
Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. On voit très bien, c'est-à-dire que si j'ai été abandonné, c'est que je ne suis pas intéressant, quoi.
Bah oui.
Et maman a beau donner tout son amour, elle ne peut pas suppléer à cette absence.
Ah oui, c'est ça. Puis moi, je ne m'en rendais pas compte. Mais
et donc, la confiance en soi ?
Non, pas terrible. Non. C'est pour ça qu'on on devient artiste, hein, finalement. Voilà. Hein.
Mais la vie avance, les années passent, tout d'un coup, un coup de fil.
Ouais, incroyable.
Le coup de fil.
Ouais, l'aventure de toute une vie, quoi, la quête absolue. En plus, on m'appelle et le téléphone, à l'époque, je parle des années 90, hein, donc c'était un vieux combiné, le téléphone, avec un cordon, et c'était dans le coin prière. Et c'est un oncle du Mexique qui m'invite là-bas. Il me paye le billet pour aller là-bas. Donc je réfléchis pas, je fonce, je vais au Mexique, j'arrive au Mexique. Et puis c'est là où en débarquant, je me dis, mais je vais retrouver ma famille, je vais retrouver mon père. Ce grand absent dont j'ai eu un coup de fil au téléphone.
À quel âge, 15 ans ?
Ouais, 14-15 ans, ouais, je pense. 14 ans.
Un peu bizarre comme coup de fil ?
Un peu bizarre, ouais. En pleine nuit, pas très bien réveillé, et puis...
Et puis c'est papa quand même ?
Ouais, il me parle avec son accent, un accent mexicain que j'aime beaucoup, et puis moi j'étais un peu gêné, je rigole, et lui il est parti, un grand rire latin. Et là tout de suite je me dis, ok. Donc là, je comprends déjà que ma maman versaillaise, chut, discrétion. Voilà,
on est bien éduqué.
À Versailles, on est bien éduqué. Et cette exubérance, je vois déjà, voilà, ok, je sais d'où ça vient. Et en arrivant au Mexique, alors là, c'est confirmé, tous mes cousins qui arrivent, exubérant, mais vive à Mexico. Et là, je comprends, je fais, ah d'accord.
Ça vient de
comme
là.
Si je retrouvais mon frère jumeau.
Je ne suis pas si différent que ça, en fait.
Cette exubérance, ça vient, en fait, de ce côté mexicain. Voilà. Alors, même si ma famille française, mon grand-père, était un grand artiste, hein, créateur, fondateur d'Harmonia Mundi, avec son épouse, ils ont créé l'EPV, l'ensemble polyphonique de Versailles, donc des grands artistes, mais plus dans la musique et classique. Oui. Alors là, au-delà de Duruflé, mon grand-père, c'est pas possible, quoi.
D'accord.
Et tout de suite, moi, je me suis mis à la batterie, donc j'étais l'instrument le plus bruyant de l'orchestre.
Ah, oui.
Et là, je comprends. Les Mexicains sont bruyants.
Oui.
Les Mexicains sont festifs. Viva Cristo Rey! Ça, c'est fantastique aussi de voir leur foi qui s'est, voilà. Puis pareil pour la Vierge Guadalupe, la Guadalupana. Tout de suite, c'est les grands chapeaux, c'est la Guadalupana, la Guadalupe. Tout de suite, on est transporté par cette vitalité, quoi. On est même réveillé. Moi, j'étais réveillé. Je me suis dit, mais c'est ça,
finalement,
en fait.
Quand vous êtes allé là-bas, vous êtes trouvé plutôt calme et discret que le garçon.
J'ai dit, en fait, même finalement.
Si c'était pas ce qu'on disait à l'école.
Exactement. J'ai appris à me dire, bah, finalement, il y a. Et puis, du coup, j'ai voulu ramener cette folie en France. C'est comme ça que je suis devenu justement Vince le Mariachi. Le Mariachi, c'est le musicien mexicain que j'ai découvert là-bas. Ça a été un choc incroyable. La musique mexicaine, ternaire, enjouée. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais il faut que je fasse découvrir cette musique-là en France.
Et puis, c'est moi, en fait.
Exactement.
J'ai ça dedans.
Exactement.
Tout d'un coup, les retrouvailles avec le papa, ça se passe comme prévu ?
Pas trop, évidemment, on est passé l'un à côté de l'autre, je me rends vite compte que c'est un artiste et que du coup, on se fâche très vite, malheureusement. Je le conseille pas, de se fâcher.
Vous êtes un peu sanguin ?
Non, même pas, mais c'était... Bon, c'est une question, je vais rentrer dans les détails. Mon père, je pose une question parce que tout le monde parle et je dis, mais de quoi parle-t-il ? Et mon père a cette merveilleuse idée de me dire, non mais tu peux pas comprendre, c'est la famille. Il me le dit en français, donc personne comprend, et moi je dis, mais... Je suis à nouveau exclu de la famille, je suis à nouveau abandonné.
Oui.
Je dis, mais je crois que t'as pas compris. C'est, moi, je veux retrouver mes origines. Je retrouve tous mes cousins, je parle avec eux. Ça me concerne. Pourquoi tu me dis que ça me regarde pas, quoi. Oui. Et là, tout d'un coup, je dis, c'est ta moi, faute, tu m'as abandonné. Voilà, c'est ça. Si je parle pas espagnol, si je comprends pas, c'est ta faute, tu m'as abandonné. Je me suis mis à crier sur lui. Mmh. Et voilà.
Bah, fallait que ça sorte, peut-être.
Fallait que ça sorte, ouais. Vous savez, la couronne d'épines, c'est une image que j'utilise pour ce moment-là. C'est le légionnaire romain qui a voulu torturer, faire du mal à Jésus. En fait, il allait cueillir des ronces. On finit les mains en sang dans ces cas-là. Il s'est déchiré les mains pour torturer Jésus. Je pense que quand on fait du mal à quelqu'un, on s'en fait à soi-même. Donc moi, je suis en train de crier sur mon père. Je me fais pas du bien. Et mon père, peut-être qu'il m'a abandonné, mais il s'est pas fait du bien non plus. Ça, je le saurai par la suite.
Et la famille autour.
Oui, alors attends, tu pourris l'ambiance, attention. Ma tante, la Yaya, qui me dit, écoute, ton père est quelqu'un d'un peu idiot, mais il m'a élevé, moi, il a élevé, parce qu'ils étaient d'une grande famille, il a élevé aussi ma fille quand mon mari m'a abandonné, le père des missionnaires au Mexique. Et du coup, je me rends compte que finalement, ce monsieur a fait quelque chose pour sa famille. Et puis on décide avec mon père, du coup, de pour pas pourrir l'ambiance, de plus parler des sujets qui fâchent. Je dis souvent... On a décidé de parler que des sujets voilà, qui ne fâchaient pas la météo. Quoi. Malheureusement, au Mexique, il fait toujours beau.
Oui.
Et les années qui suivent, bah, on va rien se dire, en fait.
Oui, ce qui arrive aussi à beaucoup de gens qui ont leur papa présent. Hein.
Oui, exactement. Je pense que ça, là, on est... voilà, il y a quelque chose d'assez masculin, où on ne dévoile pas. Alors, c'est en train de changer. Je vois beaucoup de contre-exemples. Mais effectivement, à cette époque, mon père est né dans les années 30. Mmh. Donc, on ne dit rien.
Oui.
Donc, voilà, on passe à côté l'un de l'autre.
Et finalement, le temps va encore passer.
Ouais.
Et là, ça va être un coup de fil en disant, il va pas fort.
Voilà, c'est ça.
Là, il va falloir faire quelque chose.
Ouais. Là, c'est la grande absence qui va arriver. C'est l'absence finale. C'est le décès de mon père. Mon père, on m'apprend qu'il est malade. Je vais le retrouver. Et il s'éteint en quelques semaines. Donc,
Vous avez le temps de lui dire au revoir ?
Bah, presque, puisque je suis allé le voir, mais encore une fois, on n'a pas trouvé on n'a pas ce moyen d'expression un peu mexicain où tout le monde est très exubérant. Avec mon père, on se dit rien. Et mon père me dit cette phrase, ah, tu es venu ? Je me dis, mais il est bête, je suis là. En fait, voilà, encore une fois, non exprimé, je pense que j'ai réfléchi, bien après, j'ai compris que ce qu'il voulait dire, c'était, malgré toute notre histoire, malgré le fait que tu es venu.
Et puis il y avait la petite photo dans son...
Effectivement, alors ça c'est quelques mois après son décès, je retourne au Mexique pour un mariage, pour une bonne nouvelle. Je suis témoin d'un ami qui se marie au Mexique, un Français qui épouse une Mexicaine. Et par contre du coup je retrouve ma famille et bon, faut savoir que j'ai pas pu faire le deuil, puisque quand on m'appelle, j'ai pas le temps de prendre l'avion et d'aller aux obsèques. En fait au Mexique on me dit ah, non, c'est une crémation, c'est trop tard. Donc moi j'étais déjà malade parce que bon peut-être j'ai somatisé, j'ai attrapé sans doute un petit virus au Chiapas, l'état de mon père, et du coup je m'effondre dans mon lit et quand je récupère et je me rends compte que voilà j'ai pas fait mon deuil. Et je repars au Mexique et on me donne les affaires de mon père et il y a ce portefeuille et je trouve à l'intérieur une photo pliée tellement belle parce qu'elle est graphique et c'est une photo de mon père, ma mère et moi bébé. Et voilà, on ne sait jamais à quoi pensent les gens quand ils sont loin. Mais mon père, il a gardé ce portefeuille dans son cœur.
Vous, ça vous a un petit peu mis du baume au cœur ?
Sur le coup, je pense que... Alors, c'était, il faut remettre en perspective. Je me suis dit, au contraire, colère encore.
Ah oui.
On n'a pas pu se dire.
Oui.
Et là, je me sens... obligé de devoir lui pardonner. Je suis chrétien, je suis catholique, je récite le Notre Père tous les jours. Normalement, on doit pardonner. Hein. Pardonne-nous nos offenses, ça c'est facile, comme nous pardonnons aussi. Mais alors, parfois, ce qu'on vit, c'est trop insupportable, ce qu'on a vécu, c'est pas possible de pardonner. Moi, dans mon cas, je ne savais pas comment faire, et puis en plus, il était mort. Donc je pouvais plus lui dire je te pardonne. Et du coup, là, ça devient l'inverse, je n'arrive pas à me pardonner, moi, de ne pas avoir réussi. J'ai eu cette chance de le retrouver. C'est parce que... Enfin, les personnes qui ont été abandonnées n'ont pas toujours cette chance. Quoi. On le voit bien, les nés sous X... Il y a une volonté incroyable de retrouver ses origines, de retrouver ses parents. Moi, j'ai eu la chance de le retrouver.
Parfois, ça marche, parfois pas.
Voilà. Mais exactement.
Et ça se passe parfois très bien, et d'autres fois, bizarrement.
Ben voilà. Et moi, je l'ai laissé passer, quoi. Donc, je m'en veux. Je m'en veux.
Encore aujourd'hui ?
Alors, justement, non, parce qu'il m'est arrivé un miracle, ce que je qualifie de miracle ordinaire, au regard du ciel, au regard de ce qui est possible pour Dieu. Parce qu'on dit que c'est impossible pour nous. Il y a des choses qui sont impossibles pour nous. Mais je crois que c'est possible pour Dieu. Tout est possible pour Dieu. Et Dieu, dans sa grande simplicité, me l'a montré et il a utilisé le langage qu'il fallait pour moi. Il a réussi à me parler, à entrer en communication avec moi. Souvent, on dit dans la Bible, oui, c'est Dieu qui appelle, hein, Moïse, Moïse, Samuel. Et puis, généralement, on est là, oui, c'est toi le prophète? C'est toi qui m'as appelé? Mais non, non, non. En fait, c'est Dieu qui appelle. Et là, il m'a appelé d'une manière très simple. Je suis entré dans une église parce qu'un copain, il faisait la louange, jour de Pentecôte, et il se met à chanter un chant qui parle de l'orphelin. J'étais orphelin, seul, abandonné. Et moi, ça me parle, je suis orphelin. J'ai été abandonné par mon père. Et là, je me mets à chanter, je me mets à prier, et les paroles du refrain sont très fortes. Ça parle de l'Esprit Saint qui nous guérit, qui nous restaure, et c'est le plus grand trésor de pouvoir compter sur l'amour de notre Père, Dieu Père. Et tout d'un coup, je me mets à chanter Dieu Père. C'est un miracle, ce mot, tout d'un coup. Je le chante, je le crie, je me maintiens sur les bancs et je laisse envoler ma voix vers les voûtes de l'église en disant « Mais oui, je suis ton fils ». Tout d'un coup, je me sens baptisé, le même baptême que Jésus. Oui. Ce baptême qu'il veut pour chacun et chacune de nous. Il veut pas être fils de Dieu tout seul dans son coin. Il veut que chacun et chacune, nous soyons fils et filles de Dieu. Tout d'un coup, je me sens baptisé par cet esprit d'adoption. Je me sens fils. Et là, je m'assois et je me dis, bon, c'est formidable, hein, quel miracle, incroyable. Et Dieu n'en a pas fini avec moi. Il m'a eu par la musique parce qu'il sait que c'est mon langage. Et puis tout d'un coup, voilà, il y a quelqu'un qui dit, ben, on va vous proposer une démarche, la prière des frères. Et moi, je suis un chrétien charismatique depuis quelque temps, même en venant de Versailles. Je sais très bien ce que c'est la prière des frères. C'est quelqu'un qui va vous dire des banalités, des prières sur vous en vous disant, voilà, que. En fait, c'est beau parce que la bénédiction, si on prend vraiment avec son sens de béné, le bien, c'est nous réassurer de tout le bien que veut Dieu pour nous. Eh bien, ce monsieur va le faire, mais pas en français. C'est un français, un monsieur, un blanc. Et je me suis mis, il y avait plusieurs files, je me suis mis dans une file. J'arrive devant un monsieur qui se met à prier sur moi avec ses prières de bénédiction. Il me dit, comment tu t'appelles? Je lui dis, Vincent. Il me dit, Vicente, voy a orar para Vicente, porque tú, Señor Dios, lo conoces. Il se met à parler le jour de la Pentecôte en espagnol. Et pas l'espagnol de la Casa de Papel, l'espagnol, la variété topolectale du Mexique, la langue de mon père. Et là, je suis bluffé, quoi. Je me dis, c'est la Pentecôte, ça y est, je vais passer enfin sur Cateo. Allez, Teia, ouvrez-moi les portes. C'est
un vrai
miracle.
Témoignage.
Un vrai témoignage. Un miracle, bam. Vince le mariachi rentre dans une église, tout le monde se met à parler en mexicain. Et en fait, je me rends compte que, ben non, c'est un vrai français. Et puis, je discute avec lui après.
Et qu'est-ce qu'il dit?
Eh bien, il me dit, j'ai épousé une Mexicaine, Esther, elle est là. Et donc, j'ai pris l'accent mexicain. Je parle, voilà, hablo español sin acento francés. Parce que chaque été, il va au Mexique pour ses vacances. Et là, je me dis, eh bien, c'est pas un miracle. Et puis après, je me dis, si, Seigneur, tu as été fort. Tu m'as parlé. Tu sais, en fait, tu me connais. C'est vrai, quand Jésus pose son regard et qu'il nous aime, et voilà, je t'ai vu, Nathanaël, je t'ai vu. Tout d'un coup, je me suis senti compris. Et du coup, je me suis dit, ben ouais, là, il faut que j'agisse. Puisque ce Jésus, ce Dieu si juste, vient et me parle et me pose cette question avec beaucoup de délicatesse, qu'y a-t-il que je puisse faire pour toi? C'est là où j'ai senti le déclic, j'ai dit, ben, voilà ce que tu peux faire pour moi. C'est pas possible, il est mort, mais je voudrais pardonner à mon père. Et grâce à ce moment-là, grâce au sacrement de réconciliation, qui est un outil extraordinaire proposé par notre Église, un sacrement qui vient délivrer, qui vient délier, qui vient nous réconcilier. Les mains du prêtre sont les mains de Jésus qui nous accorde. J'aime beaucoup la formule du prêtre. Et moi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Père, de mon Père, au nom du Fils Jésus, et au nom du Saint-Esprit qui est venu sur Pierre et qui a proclamé « Tu es Christ ». On est réconcilié, on est tout d'un coup sauvé.
Un beau cadeau.
Et donc, j'ai réussi à pardonner à mon père, j'ai réussi aussi à guérir cette blessure qui me rongeait de l'intérieur. Qui suis-je? Je suis fils de Dieu. Je m'empêchais de me marier, en fait, je me rends compte que je m'empêchais de me marier en me disant, mais je serais un très mauvais papa, moi. J'ai pas eu de papa. C'est pas pour moi le mariage catholique avec cette volonté de porter du fruit. Je préfère pas, quoi. Je me marie pas. Mauvais calcul, le Seigneur a pour chacun de nous, des projets de bonheur. C'est ça la bénédiction de la fin de la messe, ce mot. Et tout d'un coup, je le réalise, je dis, mais c'est vrai, en fait. Le Seigneur m'a fait rencontrer une fille extraordinaire.
Et puis, même des enfants.
Et ben voilà, c'est ça.
C'est plutôt beau.
C'est le happy end, voilà. Le Seigneur m'a fait rencontrer Charlène, et Charlène me donne des enfants. Incroyable.
Merci, Vincent.
Merci.
C'est le moment des questions courtes, réponses courtes. Dites-moi un chiffre entre 20 et 10, s'il vous plaît.
3.
Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise?
Beau match. Je sais qu'il ne dira pas ça parce que le foot, ça ne me parle pas. Mais peut-être qu'il me dira beau match. J'ai eu un peu peur à un moment, mais bien joué. Grâce à l'arbitre qu'est le prêtre.
À nouveau.
Oui, alors 1.
Quel est le personnage ou le saint que vous aimeriez retrouver au ciel ?
Tous, sans exception, c'est la grande fête de la Toussaint et je veux chanter avec chacun d'eux.
Un dernier. Je vous écoute.
7.
Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui aimerait rencontrer Dieu ?
Dieu t'appelle. Il faut que je regarde dans les caméras, là. Dieu t'appelle. Écoute. Il est là, il t'appelle. En fait, il t'appelle depuis longtemps et maintenant, c'est à toi de faire oui, c'est moi Samuel. Voilà.
Merci beaucoup, Vince. Merci. Je rappelle le titre de votre livre, Le nom du Père, récit métissé aux éditions Première Partie par Vince Le Mariachi. Merci beaucoup. Et puis...
Merci à vous.
Eh bien, bonne poursuite dans la joie, dans la musique.
Amen.
Dans la paix. Merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à retrouver cette émission sur notre site www.kto.tv.com. À la semaine prochaine.
Yeah.